Merci Mathilde. On va laisser la parole au public pour voir ce qu'il y a des questions.
Bonsoir.
Bonsoir.
Alors j'avais une question par rapport aux dépressions chroniques en fait, celles qui durent du coup plus de 24 mois. Est-ce que vous vous êtes renseigné sur le devenir en termes de suicide ou de, enfin le rémission sur ces patients-là?
J'ai pas tout entendu. Le devenir en termes de suicide?
Oui, en termes de suicide ou le devenir en général de ce type de population.
Ouais, c'est des patients qui souvent gardent beaucoup de symptômes résiduels. Et donc oui, c'est des patients. Alors le risque de suicide, il est un petit peu, il n'est pas forcément lié à la sévérité de la dépression. Enfin, pas toujours en tout cas. Mais oui, c'est des patients qui gardent des séquelles. Enfin, des symptômes résiduels, pardon, c'est plus simple de parler comme ça. Et du coup, oui, c'est des patients qu'on a du mal à traiter. Donc, où ils gardent des symptômes résiduels. Souvent, c'est à type de manque de concentration, de trous de mémoire. Et donc, ça, c'est de très mauvais pronostic. Et plus ça va s'aggraver, en fait. Et donc, souvent, c'est des patients qu'on retrouve dans des profils de soins où, en fait, c'est des patients qui ne reprennent pas le travail, qui vont consulter de façon itérative comme ça, qui sont même hospitalisés comme ça. Et parfois, la difficulté, c'est de définir quel est l'épisode qui résiste, en fait. Parce que parfois, certains patients peuvent enchaîner des épisodes dépressifs et on ne voit même plus la différence. Patients qui ne reviennent pas à leur état de base. Donc voilà, je n'ai pas de chiffres précis sur le taux de suicide de ces patients-là. Mais oui, il est un petit peu augmenté par rapport à ce que ça aurait été avant leur dépression ou même en population générale.
Et donc au final, ce n'est pas très viable comme condition... Enfin, c'est plutôt très, très, comment dire, handicapant. Donc, ils peuvent pas avoir un rythme de vie normal parce qu'ils auront toujours des tâches qu'ils pourront pas effectuer parce qu'ils seront dans des états psychotiques ou psychologiquement handicapants.
Oui, c'est ça. Donc, c'est les patients qui sont en dépression, de toute façon, c'est assez compliqué, la dépression, mais normalement, elle est circonscrite dans le temps quand on arrive bien à la traiter. Et si les patients, ils restent ce qu'on appelle en dépression résistante au traitement, oui, ils sont très handicapés par leurs symptômes. Et oui, souvent, c'est des patients en arrêt maladie. Oui, il n'y en a pas beaucoup qui peuvent continuer d'avoir une activité normale comme avant. D'où l'urgence et l'importance de traiter ces patients. Et on a vu qu'ils sont assez nombreux à ne pas répondre suffisamment au traitement.
Merci.
Justement, pour enchaîner, avant de prendre une question, tu parlais que c'était la première cause d'incapacité dans le monde. Est-ce que tu connais les statistiques en France?
Ah, si, c'est la première cause d'incapacité en France. Non, je n'ai pas les statistiques sur la France. Mais non, à chaque fois, les statistiques sont mondiales, en effet. C'est bon, le monde est globalisé. Donc, non, je ne les ai pas en tête. En plus, ma thèse date de 2015, donc je suis un peu... Mais c'est les mêmes, hein, 20 ou 30% d'épisodes dépressifs qui résistent, ça c'est la même chose en France. Et globalement, c'est plus dans les pays occidentalisés qu'on a les mêmes statistiques. Parce qu'après, il y a le transculturel qui vient en jeu. Et là, on n'a pas les mêmes statistiques. Donc nous, je sais qu'on a les mêmes statistiques que les Américains, que les Canadiens, que les grands pays occidentalisés, quoi.
D'accord. Deuxième question.
Comment vous pouvez expliquer que, malgré que la dépression soit quand même la première, on l'a vu depuis 2007, la première cause d'invalidité dans le monde, comment on peut expliquer qu'il n'y ait aucun intérêt réel des laboratoires pharmaceutiques face à ça? Parce que on a vu que, vous l'avez dit, que les méthodes quand même étaient assez empiriques. Donc voilà, si vous avez une explication, pourquoi il n'y a pas d'intérêt des laboratoires face à ça?
C'est une question assez polémique. Alors, dire qu'il n'y a pas d'intérêt des laboratoires, je dirais pas ça, parce que du coup, ils développent quand même de nouveaux antidépresseurs. Je pense plutôt que c'est la recherche qui patine un petit peu, en fait. Parce que les laboratoires, sincèrement, ils ont sorti des nouveaux antidépresseurs. Voilà, ils font un peu ce qu'ils peuvent, mais du coup, ils ont envie aussi de sortir. Parce qu'il y a un gros marché, en fait, pour la dépression. Un peu moins pour la dépression résistante. Et moi, je dirais pas qu'il n'y a pas d'intérêt de leur part. Je dirais que c'est plutôt un manque d'efficacité. Après, les modèles des études, ils sont peut-être pas suffisamment performants. Et on n'a pas les modèles explicatifs, en fait. C'est un petit peu ce que je commençais à aborder. Mais En gros, on ne sait pas trop bien d'où vient la dépression. On sait qu'il y a une déplétion en sérotonine, probablement dans d'autres neurotransmetteurs, mais on n'a pas le modèle d'action très précis. Et donc, élaborer des molécules qui seraient ultra efficaces, pour l'instant, ce n'est pas possible. On a des antidépresseurs qui marchent un peu, mais qui ne marchent pas sur tout le monde. Et alors, il y a des scientifiques qui pensent qu'on va plutôt vers une médecine un peu personnalisée, où on va plutôt essayer de comprendre pourquoi il y en a qui répondent et pourquoi il y en a qui ne répondent pas. Et il y a des pistes de recherche au niveau génétique là-dessus. Pourquoi il y a des gens qui répondent très bien à des antidépresseurs et d'autres, vraiment, c'est la galère, alors que leur épisode, il paraissait pas si difficile que ça à traiter au début, quoi. Donc, je pense que c'est, voilà, plutôt qu'on n'est pas hyper performant en termes de recherche, on n'a pas encore tout compris les mécanismes d'action.
Autre question ?
Je voulais vous demander s'il y avait une corrélation entre la cause de la dépression et du coup la résistance à la dépression. Enfin, par exemple, est-ce que si la dépression est provoquée par un divorce ou alors perdre son travail, du coup, on allait avoir une différence de réponse aux antidépresseurs ?
Alors ça, pas à ma connaissance, et je ne sais pas s'il y a des études qui se sont intéressées à ça. Après, les événements de vie négatifs, comme vous dites, divorce, perte de l'emploi, deuil, etc. Ça, c'est des pourvoyeurs de dépression, quoi qu'il arrive. C'est-à-dire que vraiment, quoi qu'il arrive, on sait que ça a favorisé l'apparition d'une dépression. Après, sur ces épisodes dépressifs-là, enfin sur la population de personnes qui va faire des épisodes dépressifs, il y en a un tiers qui va résister. Donc après, à ma connaissance, il n'y a pas d'études qui montrent si telle ou telle cause va impacter. Mais même les relations de cause à effet, elle n'est pas si simple dans le fait de déclencher une dépression. Il y a des gens qui sont plus susceptibles de déclencher une dépression avec probablement une susceptibilité génétique. Mais ça, c'est pareil, c'est vraiment des suppositions et pour l'instant, il n'y a pas de preuves formelles, quoi.
Je crois qu'il y avait une question au premier rang. Le micro arrive.
Justement, par rapport à la recherche, qu'est-ce qui pose problème justement pour la mise en place de recherche sur ce sujet-là ? Qu'est-ce qui en fait freine tous ces manques dans les questionnements posés, les études de sujets ?
Moi, je pense que le concept, il est assez flou. Hein, une dépression résistante, ça résiste à quoi ? À combien de temps ? Vous avez vu qu'il faut quand même définir déjà tout ça avant d'en parler. La littérature, elle ne s'y est pas encore intéressée. Ça n'a pas pris une place énorme. Et après, je pense encore une fois que les mécanismes d'action, c'est important de les connaître vraiment bien pour pouvoir justement développer des médicaments plus efficaces que ça. Et alors, il y a aussi le fait qu'il y a quand même une partie des scientifiques, ça j'en ai pas parlé dans la thèse, mais qui estiment que la dépression résistante, c'est une entité qui n'existe pas. Parce qu'en fait, ce serait plutôt que des facteurs de risque ou des comorbidités qu'on n'aurait pas traitées, en fait. Que vraiment, soit on méconnaît un trouble bipolaire, et à ce moment-là, faut le traiter comme un trouble bipolaire, soit on n'a pas pris en charge toutes les pathologies somatiques qu'il peut y avoir, on ne les a pas dépistées, on ne les a pas prises en charge. Et donc, voilà, c'est quand même un concept encore un peu débattu dans la littérature, quoi. Ça n'a pas pris une ampleur énorme, la dépression résistante. Pour l'instant, on se contente de donner les antidépresseurs qu'on connaît, quoi. Donc voilà, moi, j'ai pas plus de réponses à apporter que ça. Je n'ai rien à voir avec les laboratoires. Et du coup, peut-être que je suis un peu naïve, je ne sais pas. Mais voilà.
Justement, tu disais que c'est une entité qui est un peu floue. Tu parles de 6, si j'ai bien suivi hein, la définition, c'est 6 semaines à posologie maximale.
Ouais.
En tout cas,
maximale autorisée, ouais.
Voilà. ce qu'on considère comme maximal. Mais du coup, je vais aussi parler en tant que médecin généraliste. Du coup, on a tendance en général à ne pas commencer à posologie maximale. On commence à demi-posologie ou à trois quarts. Les patients, quand ils arrivent, qu'on leur dit qu'on considère que c'est une dépression résistante, du coup, ça fait combien de temps en moyenne, est-ce que tu sais, qu'ils sont traités ?
Ah oui, en moyenne,
combien ouais, avant d'arriver dans...
Bah, moi, de mon expérience que j'avais sur la cohorte de patients qu'on a vue, c'était des patients qui traînaient plusieurs mois. Hein. Donc, en fait, c'est plutôt 3 à 6 mois, le temps qu'ils arrivent au CHU de Caen, en disant, mais là, vraiment, docteur, ça fait X mois que je me traîne ça, etc. Donc, c'était plutôt 3 à 6 mois, parce qu'en effet, il faut le temps de monter. En général, les psychiatres, on y va un peu plus fort que les généralistes quand on traite l'épisode, on va plus vite, en tout cas. Mais oui, il faut le temps de l'initiation. Surtout, mais en fait, il y a aussi un point qui est très important, c'est l'observance. Parce que souvent, les patients, ils arrivent et finalement, quand on les questionne beaucoup, on comprend qu'ils n'ont pas bien pris leur traitement parce qu'il y avait plein d'effets secondaires et que c'est aussi l'intérêt de prendre son temps dans l'initiation du traitement antidépresseur. Donc voilà, en général, de mon expérience, c'était plusieurs mois avant qu'ils arrivent et qu'on pose le diagnostic et que là, on entame vraiment, on sort l'artillerie lourde quoi, pour les traiter.
D'accord. Question.
Est-ce que vous savez à peu près, parce que j'ai vu que dans votre cohorte de patients, la moyenne d'âge était 65 ans à peu près, est-ce que vous avez des chiffres un petit peu de personnes un peu plus jeunes, parce que des chiffres de dépression chronique chez des personnes plus jeunes, aux environ 30-40 ans,
Quel est le pourcentage de dépression chronique chez les jeunes?
Voilà. Chez des patients un peu plus jeunes, est-ce que ça arrive vraiment chez des personnes âgées, entre guillemets, qui ont peut-être un vécu, des comorbidités à côté?
Non, alors...
Ou chez des patients plus jeunes aussi, est-ce que ça arrive plus souvent chez des personnes
Au niveau de la résistance au traitement parmi les patients déprimés, à ma connaissance, c'est tous les types d'âge. Sauf que il y a quand même probablement plus quand il y a des pathologies somatiques. Et donc ça se déplace un petit peu la courbe vers les patients un peu plus âgés. Et c'est probablement ce qui explique que nous, on a une moyenne de 65 ans, alors que je voulais inclure des patients dès 18 ans, quoi. Donc je me retrouve avec des patients quand même plus âgés. Voilà. Donc du coup, il y a probablement plus de patients dans ces tranches d'âge-là, quoi. D'accord. Mais j'ai pas de chiffres...
Pour les patients un peu plus jeunes, quoi.
Formel. Non, j'ai pas de... Voilà.
J'avais une question par rapport au devenir des dépressions résistantes et notamment les dépressions chroniques. Est-ce que parfois on voit des patients qui peuvent devenir bipolaires ou schizophrènes suite à leur dépression, en fait, qui se transforme en un autre trouble psychiatrique finalement?
Alors, non, ça ne peut pas se transformer. La dépression, elle peut pas, on ne peut pas se transformer. Par contre, il y a des cas où on méconnaît un trouble bipolaire. C'est-à-dire que le trouble bipolaire, il ne s'est pas encore révélé dans toute sa dimension. Et pour porter le diagnostic d'un trouble bipolaire, il faut que le patient il ait fait à la fois des épisodes dépressifs et à la fois des épisodes maniaques. Et parfois, on n'a pas de chance, lui surtout, il commence par faire que des épisodes dépressifs. Donc là, on se dit, c'est des épisodes dépressifs qui résistent, on va le traiter, machin. Et puis après, il va faire un épisode maniaque. Et donc là, on va le traiter autrement, finalement, puisqu'on va là, pour le coup, on aura le diagnostic de bipolarité qui sera accessible et qui sera apporté. Par contre, voilà, c'est pas parce qu'on fait des dépressions qu'on va être schizophrène. La schizophrénie, c'est vraiment une vulnérabilité génétique. Ça, c'est assez établi. On ne sait pas quel gène, on sait clairement que c'est génétique. Et donc, en gros, voilà, on l'a ou on l'a pas, la susceptibilité de devenir schizophrène. Et après, ça se développe, et ça se développe jeune. C'est une pathologie du sujet jeune. Donc... Non, il n'y a pas de... Voilà. Le seul risque, c'est de méconnaître un trouble bipolaire parce que le patient, il rentrerait dans son trouble bipolaire par des épisodes dépressifs.
Par rapport à ces épisodes dépressifs, combien de temps ça peut durer sans qu'on... Enfin, je ne sais pas si vous avez une idée, sans qu'on sache que finalement, c'était un trouble bipolaire. Pendant combien de temps la personne peut être en phase dépressive au maximum?
Ouais. Alors, en général, ça ne dure pas très, très longtemps. Il peut commencer par un épisode dépressif, peut-être en faire deux. Normalement, ça rentre à peu près dans l'ordre. Et puis, rapidement, on va avoir des symptômes maniaques qui vont prendre le dessus parce qu'il faut vraiment, là, pour le coup, un thymorégulateur. Et donc, c'est un ou deux épisodes maximum. Mais voilà, en gros, c'est souvent le premier épisode dépressif qu'on prend pour un truc qui résiste. Et puis, en fait, c'est une bipolarité. C'est souvent ça.
Et par expérience, après, ce qui arrive souvent aussi, c'est qu'on ne voit pas l'épisode maniaque, ou en tout cas le premier épisode maniaque, en pensant que c'est normal ou que c'est autre chose. Oui. Et du coup, c'est vrai qu'on arrive au deuxième épisode dépressif.
C'est ça.
Sans avoir vu en fait qu'entre les deux, il y a eu un épisode maniaque qui s'est passé et qui aurait permis en fait de faire le diagnostic.
Ouais, c'est là qu'il faut vraiment bien interroger les patients parce que parfois ils vous disent c'était pas grand chose, j'étais super exaltée, enfin j'étais hyper content, j'ai vachement bien récupéré de ma dépression. En fait non, c'était un épisode hypomane ou maniaque. Et donc là, voilà, ça a de l'intérêt aussi d'avoir la version des faits des familles qui elles sont plus objectives sur le coup.
Vous disiez du coup que c'était résistant, donc c'est résistant par rapport entre autres aux thérapeutiques. Mais est-ce qu'il y a des études qui ont été faites avec une association donc thérapeutique et entre autres psychothérapie ou sismothérapie? Et est-ce que ça a été prouvé ou non du coup que ce qui était résistant en association, ça pouvait devenir justement peut-être moins résistant ou pas? Ou est-ce que ça n'a jamais été...
J'ai pas forcément compris l'objet
en fait,
de votre question.
Là, on est sur la thérapeutique, donc ouais. Du coup... la dépression, elle est résistante, entre autres, au traitement. Mais est-ce que, du coup, il y a déjà des études qui ont été faites pour des dépressions qui étaient résistantes vraiment aux thérapeutiques, en mettant en place, du coup, un suivi en plus avec une psychothérapie ou en plus une sismothérapie, est-ce qu'on s'est rendu compte que peut-être ça pouvait un peu diminuer la résistance de ces dépressions-là ou pas ?
Alors, le diagnostic de dépression résistante, il est porté quoi qu'il arrive après ces deux essais d'antidépresseurs qu'on met à la suite, hein, l'un puis l'autre. Et après, le diagnostic de dépression résistante est porté. Après, ce qui est sûr, c'est que la sismothérapie, elle a vraiment une efficacité très importante. Hein. Vraiment, dans la littérature, c'est parfois supérieur aux antidépresseurs. Et par contre, c'est vraiment une question de mise en place parce que c'est assez compliqué et d'acceptabilité. Il y a très, très peu de patients qui acceptent de faire des sismothérapies. Et les indications de la sismothérapie, surtout, ce n'est pas tellement les patients très, très tristes, très, très ralentis. C'est plutôt les mélancolies, les patients vraiment mélancoliques du dernier degré. Eux, ils répondent extrêmement bien aux sismothérapies. Donc, en fait, oui, de fait, après, il n'y a plus de résistance. Votre question, c'est est-ce que si ça continue de résister, si on fait un autre épisode dépressif derrière, si on résistera au traitement? Ça, moi, j'ai pas de données, je ne pourrais pas vous répondre là-dessus. En tout cas, sur la sismothérapie, c'est vraiment extrêmement efficace dans les mélancolies, dans les dépressions avec des caractéristiques psychotiques. Et après, s'il faut agir vite, on peut aussi l'utiliser, quoi. C'est ce que je disais dans ma diapo, c'est que ça va quand même vite en termes d'efficacité. Si on est dans les bonnes indications et si on peut en faire 3 par semaine, c'est l'idéal, ça va très vite en s'améliorant.
Et par rapport justement à la psychothérapie, entre autres, parce que du coup, les symptômes de la dépression donc, ils vont être traités par les antidépresseurs. Mais donc, si ça ne fonctionne pas, du coup, c'est vrai que du coup, la psychothérapie, elle va normalement un petit peu plus loin pour aller chercher les bases de ce
La psychothérapie, mal-être-là. Elle est quoi qu'il arrive toujours indiquée en cas de dépression résistante. Et surtout s'il y a des composantes anxieuses, etc. Mais elle sera toujours indiquée. Il faut toujours que le patient il ait une psychothérapie en plus, même si de prime abord, il vous dit non, mais c'est bon, j'ai besoin de rien. Il faut essayer au maximum qu'il adhère à ça, parce que ça va être toujours utile. Par contre, ce ne sera jamais une première ligne de thérapeutique. C'est forcément, ça vient après les traitements, ça vient entre guillemets après les traitements médicamenteux, quoi. Voilà.
Une autre question ? Moi, j'avais une question par rapport à la fin, aux limites, notamment aux biais. Parce que tu fais une étude prospective,
ouais.
Et tu parles d'un biais de mémorisation. Alors, c'est un peu paradoxal.
Ouais. C'est vrai.
Comment tu peux expliquer ?
Bah, en fait, ce que je voulais dire, c'était que moi, j'ai donné mes questionnaires aux équipes. Et parfois, ils avaient du mal à remplir mes questionnaires. Et du coup, je leur demandais de m'appeler, quoi, si ça a été un problème pour le faire. Et donc, moi, j'allais les voir et du coup, après, il fallait... pour moi, ce que j'appelais biais de mémorisation, c'était surtout qu'ils n'avaient pas forcément tout tracé dans le dossier.
D'accord.
Et que si on essayait de chercher, après, il fallait faire appel à leur mémoire à eux. Donc, je pense que le terme, il n'est pas adapté. Mais c'était ça que je voulais retranscrire. C'est
d'accord.
Que du coup, il y avait peut-être des pertes d'informations
dans
la façon dont ils retranscrivaient les choses.
Alors qu'ils étaient au courant qu'il y avait une étude en cours
Oui, oui, ils étaient au courant. D'accord. Mais c'est vrai qu'ils se sont améliorés au fur et à mesure. C'est l'intérêt prospectif des études. Mais au début, j'ai eu du mal à leur dire qu'il fallait remplir mes questionnaires. Je pense que c'est dans tous les services, il faut prendre l'habitude. Et puis après, moi, j'ai vu une amélioration. Ils m'incluaient plus de patients à la fin.
D'accord.
Ils avaient mieux compris comment se passait le questionnaire. Non, je les avais briefés un peu, mais après, il y a le changement des internes. Ça impacte aussi que, du coup, il faut réexpliquer. Et voilà. Mais c'est ce que j'ai appelé biais de mémorisation, c'est un peu un abus de langage.
Oui, enfin, oui et non.
Mais voilà.
D'accord. D'autres questions ?
Qu'est-ce que vous voudriez donner comme suite à votre étude ?
Alors, étant donné que c'était une évaluation des pratiques professionnelles, j'aimerais bien qu'il y ait un plan d'amélioration qui soit fait et qui soit protocolisé pour que les pratiques s'améliorent, en fait. Moi, j'avais vraiment envie d'une thèse ultra pragmatique pour aider le service à s'améliorer, pour être dans vraiment une démarche qualité. Donc voilà, la première partie d'une EPP, c'est d'extraire les recommandations. Ensuite, c'est de faire un peu le questionnaire, l'instantané de comment on fait. Et puis après, de développer son plan d'amélioration. Donc oui, je pense après que les équipes, ils ont déjà rien que le fait de faire une étude là-dessus et rien que le fait de faire du prospectif, c'est-à-dire d'inclure au fur et à mesure du temps, les équipes modifient déjà leur façon de faire. Donc voilà, moi j'aimerais bien qu'il y ait un plan d'amélioration protocolisé et que voilà, ça puisse aider les équipes.
Et est-ce que vous souhaiteriez qu'il se limite justement à l'endroit où vous avez fait votre thèse, ou est-ce que vous aimeriez l'étendre un petit peu et mettre en lumière en fait justement ce questionnement-là ?
Ah bah non, moi j'aimerais bien que ça diffuse un peu partout, parce que c'est vraiment la dépression, c'est quand même oui, ça touche énormément de gens, donc moi j'aimerais bien que ce soit diffusé partout, mais et que du coup l'intérêt là-dessus soit un peu grandissant. Il y a une fondation qui s'appelle la Fondation Fondamentale, je ne sais pas si ça vous connaissez, mais qui fait là-dessus des centres experts. Et du coup, ça, je trouve ça assez intéressant. C'est là où j'ai demandé à faire mon interchu en 8e semestre. C'est des centres de consultation spécialisés où on peut envoyer les patients. Il y en a en général un par région ou alors un peu plus loin, mais et on peut envoyer les patients là. Et eux, ils sont spécialisés dans la recherche et la consultation avec ces patients-là. Du coup, ça, c'est assez intéressant. Moi, j'aimerais bien, mais c'est pas moi du tout qui décide, mais qu'il y ait un centre, des centres experts dépression résistante et schizophrénie à Caen, oui. Moi, j'aimerais bien.
Est-ce que, du coup, le plus proche, actuellement ?
Eh bien, pour dépression résistante, c'était Paris. Je crois qu'il y a Lille aussi, mais...
D'accord.
Voilà, après, à Caen, il y a le centre dépression résistante autisme. Voilà.
C'est encore un...
Au CHR.
D'accord. OK.
Est-ce que, du coup, dans la résistance aux antidépresseurs, on peut aussi inclure la tolérance, si elle existe, aux antidépresseurs ?
Qu'est-ce que vous appelez la tolérance ?
Enfin, le fait qu'il n'y ait plus de réponse, à force d'utiliser trop longtemps peut-être un traitement. Je ne sais pas si du coup ça existe.
Du coup, c'est pas la tolérance, c'est plus...
Un épuisement de l'effet.
Voilà.
Ça, à ma connaissance, ça n'a pas vraiment été documenté en tant que tel. C'est un peu je ne sais pas comment dire, une espèce de fantasme où ce serait un peu la même chose qu'avec, par exemple, des traitements anxiolytiques, où ça peut se voir un peu. À ma connaissance, il n'y a pas d'épuisement de l'effet antidépresseur. Il y a simplement une pathologie qui s'enkyste. Et puis encore une fois, il faut toujours rechercher si le patient il les prend bien, ces antidépresseurs. Parce que s'il les prend un jour sur deux ou un jour sur trois, ou s'il oublie tout, ou si... L'hypothèse, c'est que quand même, les antidépresseurs, ils marchent et il n'y a pas vraiment d'épuisement de l'action, mais plutôt il y a des choses qui ne sont pas traitées à côté, quoi. C'est plutôt ça, l'hypothèse. C'est que peut-être que le patient il a besoin d'une psychothérapie en plus, peut-être qu'il faut qu'on lui traite son syndrome d'apnée du sommeil ou je ne sais quoi. Donc voilà, moi j'ai pas. C'est un concept qui n'existe pas vraiment, la tolérance aux antidépresseurs dans la littérature. Enfin, moi je ne l'ai pas vu.
Et donc du coup, comme.
Apparemment, il n'y a pas de tolérance. Ces patients-là, que, donc en dépression chronique, est-ce que vous savez s'il est possible qu'ils un jour arrêtent leur traitement? Ou alors combien de temps après qu'ils aient quitté l'hôpital, ils continuent leur traitement? Ou voilà, s'il y a un moment, à partir d'un moment, un arrêt total et une rémission complète, entre guillemets?
Alors, si les patients ils sont encore symptomatiques, c'est-à-dire qu'ils sont dans leur dépression chronique et que ça ne va pas, etc., on n'arrête pas le traitement. Il y a des patients qui prennent les antidépresseurs quasiment à vie, quoi, parce que ça ne s'améliore pas. Et donc, voilà. Donc, non, il n'y a pas... Enfin, tant qu'il y aura... mais après, si le patient s'améliore, on voit... C'est pour ça que les échelles sont quand même vachement utiles, parce que quand on est la tête dans le guidon en tant que clinicien, il y a des fois, on ne voit plus bien et ça vaut le coup de faire un score de dépression sur le patient. Permet de le voir s'améliorer. S'il s'améliore vraiment, si par exemple on a 50% d'amélioration à son échelle, on peut arrêter l'antidépresseur après. Mais il faut une longue période, il faut au moins 12 mois de stabilité. Donc il faut avoir une longue période de stabilité sur ses symptômes, que ça se passe bien, vérifier, et après on peut l'arrêter. Au contraire, il faut toujours mieux arrêter le traitement antidépresseur, mais on prend une marge de sécurité assez grande.
Est-ce qu'on sait justement le pourcentage de patients à qui on n'arrive pas à arrêter le traitement?
Sur les 20 à 30% des patients résistants, non, c'est une bonne, c'est une bonne majorité, je crois. Je n'ai pas le pourcentage en tête, mais pour l'instant, on n'est pas très performant sur ces patients-là. Donc,
Une autre question?
Par rapport au traitement dans la dépression résistante, ils sont plutôt addictifs ou pas les
traitements?
Les traitements, oui.
Non, il n'y a pas de dépendance aux antidépresseurs. On croit souvent qu'il y a une dépendance aux antidépresseurs, mais ce n'est pas du tout le même mécanisme que la dépendance aux anxiolytiques, par exemple. C'est une sorte d'accoutumance du cerveau au traitement. Et pour l'arrêter, il faut prendre son temps et faire des paliers. Pas que le patient se retrouve mal parce qu'on a diminué trop vite son antidépresseur, mais c'est pas du tout un mécanisme de dépendance parce que le circuit de la récompense n'est pas dedans, quoi. Donc on peut pas parler d'une dépendance, mais il faut arrêter progressivement les antidépresseurs. Quand le patient va mieux, on l'arrête progressivement, on fait des paliers et ça se passe très bien. Mais c'est pas une dépendance.
Et les antidépresseurs, des fois, ils sont pris avec des anxiolytiques, non?
Ah oui, oui, bah oui, souvent les patients ils arrivent avec des anxiolytiques. Oui, oui. Donc ça, par contre, les anxiolytiques, c'est une dépendance au traitement anxiolytique. Et ça, voilà, il faut. Si on peut s'en passer, c'est mieux. Mais parfois le patient en a vraiment besoin. Voilà. Mais du coup, il faut à tout prix essayer de les arrêter dès que c'est possible. Les anxiolytiques, en tout cas, qui sont des molécules, en effet.
Mais du coup, dans le cas où c'est pas possible, que dans le cas où la personne en a vraiment besoin tout le temps et qu'il ne s'arrête pas, ça devient néfaste pour sa santé. Et du coup, qu'est-ce qui peut se passer? Parce que s'il devient addict aux anxiolytiques, après,
c'est pour ça que les autorités nous demandent de ne pas prescrire les anxiolytiques plus que 12 semaines. Après, c'est bien, hein, parfois dans la pratique, chez certains patients, on ne peut pas. Et après, dans les dépressions, il y a des composantes anxieuses. Donc théoriquement, si on arrive à bien traiter la dépression, si elle est bien stabilisée, si on a choisi une molécule aussi qui, par exemple, va agir plus sur l'anxiété chez ce patient-là, on doit pouvoir se passer d'anxiolytiques. Ça, c'est la théorie, hein. La pratique, c'est qu'il y a... Il y a des patients, c'est beaucoup plus compliqué. Après, il y a des patients qu'on est obligé d'envoyer en addictologie, hein, pour des sevrages en anxiolytique. Mais ça, il faut le faire, il ne faut pas hésiter à avoir recours aux collègues addictologues pour pouvoir se passer au maximum des anxiolytiques. Mais c'est vrai que les patients, parfois, certains, ils y tiennent tellement à leurs anxiolytiques qu'eux ne sont pas prêts non plus à les lâcher. Donc c'est... Voilà.
Merci.
D'autres questions?
Moi, j'avais une question pour si les dépressions chroniques existaient chez les femmes enceintes. Et si c'était le cas, comment vous ajustez le traitement, si vous l'augmentez ou arrêtez ou maintenir pareil au niveau des dosages?
Alors, les dépressions résistantes, vous voulez dire?
Oui, chez des femmes enceintes. Si
alors,
ça,
j'imagine que ça doit exister, mais...
Juste précision, c'est chez les femmes qui deviennent enceintes alors qu'elles sont déjà en dépression
ou
on parle de la dépression postpartum
Non, pendant la grossesse.
Du coup, ce serait quelqu'un qui aurait...
Pendant la grossesse chez une dame déjà dépressive.
Ce serait une femme qui traînerait sa dépression, voilà. C'est ça, et qui serait enceinte. Oui. Et qu'est-ce qu'on fait sur... c'est toujours assez compliqué de traiter les femmes enceintes. Hein. Après, il y a des antidépresseurs qu'on peut garder pendant la grossesse. Évidemment, on ne va pas lui faire de sismothérapie à cette pauvre dame. Il y a un site qui s'appelle le CRAT, qui référence un peu tout ce qu'on peut mettre chez les femmes enceintes. Là, moi, il n'y a pas d'études en fait, sur les femmes enceintes. C'est pas vraiment très légal. Donc, j'imagine que la situation existe et je pense que les équipes elles doivent être un peu en difficulté. Probablement qu'après l'accouchement, on peut remettre un peu des thérapeutiques.
Oui, moi c'est ce que je voyais, que des arrêts. Et en fait, on prend après l'accouchement, mais c'est hyper dangereux quoi, pendant la période de grossesse.
Oui, je pense qu'il faut un suivi hyper rapproché avec les équipes de la maternité et les psychiatres. Hein. Souvent, c'est comme ça qu'on fait appel à la psychiatrie de liaison et on essaye de trouver un consensus, mais c'est toujours compliqué. Les femmes enceintes avec les pathologies psychiatriques, c'est une situation assez compliquée. Hein.
C'est vrai que le terme de consensus en général est assez important dans ces cas-là, c'est-à-dire qu'on essaye de trouver un équilibre entre ce qui est possible, ce qui est impossible, ce qui est interdit, mais on le fait quand même parce qu'il faut un équilibre de la patiente et pas mettre en danger pour d'autres raisons. Mais c'est toujours un équilibre assez précaire.
Ah oui, non, les femmes enceintes à traiter par les psychotropes, c'est pas simple. Ouais.
Encore une ou deux questions, s'il y en a. Pas de questions. On va peut-être conclure, du coup. Merci Mathilde pour ta présentation. Merci de t'être prêté au jeu à la fois de présentation, mais aussi des questions et des réponses. Sur un sujet qui, au final, touche beaucoup de personnes et qui est un peu méconnu, en tout cas sur l'aspect surtout de la résistance à la dépression.
C'est vrai. Merci à vous.
Merci au public pour d'être venu et surtout d'avoir participé.